Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre. Des étudiants de l'université de Bounia en Ituri sensibilisés contre ce phénomène en milieu universitaire. C'est pour permettre aux étudiants en général de connaître les méthodes de signalement des violences sexuelles afin de les dénoncer, disent les organisateurs. Et puis les vendeurs du marché Mzé Laurent-Désiré Kabila à Lubumbashi sommet de libérer les lieux et de rejoindre d'autres marchés de la ville. Une décision prise par les autorités provinciales du Haut-Katanga qui suscite l'inquiétude des nombreux commerçants. L'invité de ce journal est le maire de la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Dominique Nkodiambété évoque la question de la problématique des constructions anarchiques sur les routes en pleine réhabilitation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre. En Ituri, la police de la MONUSCO, UNPOL, en collaboration avec la police nationale congolaise, a sensibilisé vendredi dernier des étudiants de l'université de Bounia contre ce phénomène en milieu universitaire. 34 étudiants, dont 11 filles, ont été ciblés pour cette activité. Pour les organisateurs, l'information et la sensibilisation doivent permettre aux étudiants de mieux connaître leurs droits et surtout de connaître les méthodes de signalement des violences sexuelles afin de les dénoncer. C'est un reportage signé Jean-Claude Lokidili.
Dans les milieux universitaires et scolaires, le harcèlement sexuel demeure une préoccupation, mais aussi un sujet presque tabou. Au cours de cette sensibilisation, les organisateurs ont notamment insisté sur les pressions exercées sur certains étudiants en échange de faveurs sexuelles ou de points académiques. Grace Baloumé, commissaire adjointe de la police nationale congolaise, en charge de la prévention des violences sexuelles en commune de Bounia.
On peut dire les autorités académiques qui profitent de la naïveté de certaines étudiantes pour obtenir des faveurs de nature sexuelle. Ils échangent des points avec les corps. Ce ne sont pas de bonnes pratiques.
Mais de nos ces pratiques restent difficiles pour certaines victimes, notamment par peur de représailles ou des conséquences sur leur parcours académique. Pour Sarah Avouti, étudiante à la faculté de droit, les violences basées sur le genre ne se limitent pas au milieu universitaire. Elle estime que la sensibilisation devrait davantage cibler les parents, qu'elle considère comme des acteurs essentiels de la prévention.
En Afrique, déjà à la maison, je dois faire à manger pour les garçons. Et à ce temps-là que moi je suis à la cuisine, les garçons sont en train d'étudier.
Briser le silence et dénoncer auprès des services compétents apparaissent ainsi comme deux étapes essentielles pour mieux lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre en milieu universitaire et scolaire. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Et puis, au Nord Kivu, les journalistes appelés à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. À Beni, une série de sessions de renforcement des capacités est organisée depuis mercredi dernier afin d'outiller les professionnels des médias sur les stratégies de sensibilisation des communautés aux mesures de prévention contre cette épidémie. Cette initiative de l'Union nationale de la presse du Congo, Fédération de Beni, vise à renforcer l'implication des médias dans la diffusion des messages de prévention. Le président de l'UNPC Beni, Mustapha Mulonda, explique les objectifs de cette formation au micro de Marc Marofimbo.
Ensemble, nous sommes dotés des stratégies d'élite, comme d'habitude, connaissant que le média ainsi que les journalistes, comme étant acteurs sociaux, capables d'avoir plusieurs followers afin de lutter efficacement contre toutes sortes d'épidémies, on a essayé d'outiller aux journalistes des stratégies qui a voulu à ce que les journalistes puissent produire des magazines, mais aussi des spots dans les langues locales pour essayer de sensibiliser la communauté à pouvoir se protéger. Parce que plus les gens se protègent, plus les gens restent vivants. Il faut dire que pour la ville de Beni et territoire, cette maladie, ce n'est pas pour la première fois qu'elle est là dans nos murs. C'est juste un rappel et les journalistes connaissent d'abord très bien ce qu'il faut faire dans le cadre de la lutte. Raison pour laquelle on a essayé de rappeler quelques règles de base dans la lutte contre une épidémie, afin qu'il soit beaucoup plus outillé, beaucoup plus efficace dans la lutte.
Ici à Kinshasa, la Fondation Konrad Adenauer a organisé vendredi dernier une matinée de médias consacrée à la réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour encourager les journalistes à s'intéresser aux sujets liés à l'investigation. Cela étant donné que la couverture des sujets nécessitant une investigation demeure l'un des grands défis pour plusieurs médias en République démocratique du Congo. Les journalistes congolais expliquent cette situation par les menaces qui les guettent et les difficultés d'accès aux sources. Pour contourner ces obstacles, ceux qui s'adonnent encore à l'investigation préfèrent nouer des liens avec des structures internationales afin de se mettre à l'abri. Conséquence, les médias congolais se voient privés des contenus à haute valeur ajoutée par peur des représailles. Ronelin Tibonera Idi Amin y a pris part et nous propose ce reportage.
Il y a beaucoup de choses qui...
Josué Benzabo, 10 ans de carrière, peine à retrouver un article d'investigation signé de sa main. Ce journaliste qui couvre l'actualité au quotidien RDC reste prudent face aux risques encourus malgré la pluralité des sujets nécessitant des enquêtes.
Quand on parle de tournement, on parle des morts d'hommes, l'accès à l'information c'est toujours compliqué, il y a des menaces, il y a aussi au niveau de la rédaction, où il y a des sujets où on vous dit clairement que ça ne passe pas.
Conscient des dangers liés à la révélation de certaines vérités impliquant des autorités locales et des entreprises, Jonas Chipadi a tourné les dos aux médias locaux. Il collabore désormais avec des firmes étrangères pour publier les résultats de ses investigations.
Avec les partenaires étrangers, vous avez la possibilité de fouiller des informations même si c'est sensible. Donc c'est la garantie de la sécurité qui m'a poussé de me tourner, que je sois indépendant pour mener bien les enquêtes, enfin informer la population. Parce que la population a besoin d'avoir même les informations qui ne se trouvent pas sur les lieux publics.
Face à ces défis persistants, Prince Mayero, du Média 7 sur 7, plaide pour le renforcement des mesures de protection de journalistes afin de garantir une presse efficace.
L'État doit promouvoir un environnement propice aussi aux enquêtes, puisque sans enquête, il y a toujours des dossiers, notamment de corruption, qui resteront toujours cachés.
Notons que cette activité a été placée sous les thèmes « Les défis et obstacles au journalisme d'investigation en RTC ».
Les vendeurs du marché Mzé Laurent Désiré Kabila ont jusqu'au 20 août prochain pour libérer les lieux et rejoindre d'autres marchés de la ville de Lubumbashi. Cette décision prise par les autorités provinciales du Haut-Katanga suscite l'inquiétude de nombreux commerçants. En effet, un projet de construction de marché moderne est prévu sur le site actuellement occupé par les marchés Mzé Laurent Désiré Kabila en plein centre-ville de Lubumbashi. Plus de détails avec vous, Paul Mounanga.
À l'issue d'une réunion consacrée à la reconstruction du marché Mzé Kabila présidée ce jeudi à Lubumbashi par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, en présence de plusieurs autorités et des représentants des commerçants, le 20 août prochain est retenu comme date limite pour la libération du site. Des dizaines de milliers de vendeurs seront ainsi délocalisés vers différents marchés de la ville, notamment les marchés centrales de la Rouachi, les marchés de Kamalondo, les marchés Kaseba et les marchés de la Plaine dans la commune de Kampemba. Selon le gouverneur intérimaire, cette mesure vise à permettre le lancement des travaux de construction d'un nouveau marché moderne répondant aux normes actuelles. À cet effet, il a invité les commerçants à faire preuve de compréhension et de collaboration afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets. Toutefois, cette décision est loin de faire l'unanimité. Pour rappel, l'annonce de ces projets avait déjà provoqué des manifestations des commerçants dans la ville de Lubumbashi. Ces derniers s'étaient rendus à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour y déposer un mémorandum exprimant leurs préoccupations et leurs revendications concernant ces dossiers. Lubumbashi, Pone Munanga, Radio Okapi.
Et dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, près de 3 mois après la fermeture de la frontière de Kasindi-Lubiria avec l'Ouganda, les petits commerces transfrontaliers tournent au ralenti. La mesure avait été prise par Kampala pour limiter la propagation d'Ebola. Poissons, tomates et d'autres produits de consommation sont de plus en plus difficiles à trouver sur le marché, selon des sources locales. Et malgré la fin officielle de l'épidémie en Ouganda, la frontière reste toujours fermée. Des précisions de Martial Papimukeba.
À Kasindi-Lubiria, la fermeture de la frontière avec l'Ouganda perturbe les activités des petits commerçants. Selon des sources locales, beaucoup peinent à s'approvisionner et à écouler leurs marchandises. Les vendeurs de poissons sont particulièrement affectés. Certains empruntent désormais des passages non officiels pour se ravitailler en Ouganda. Pour les revendeurs de tomates, un véhicule assure l'acheminement des marchandises depuis l'Ouganda jusqu'à Kasindi-Lubiria sans que les commerçants aient à franchir la frontière. La mesure avait été prise fin mai pour limiter la propagation d'Ebola. Mais le 28 juillet, l'Ouganda a annoncé la fin officielle de l'épidémie après 42 jours sans nouveau cas. Malgré cela, la frontière de Kasindi-Lubiria reste fermée du côté ougandais. Cette fermeture continue de peser sur les échanges et les petits commerces transfrontaliers Joaillier, Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis, dans la province du Tanganyika, les travaux de construction du nouveau port industriel situé sur les rives du lac Tanganyika au village Mtoa, dans les territoires de Kalemie, se poursuivent normalement. Le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, a effectué vendredi dernier une visite d'inspection sur le site. Cette descente avait pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement de ce chantier stratégique, appelé à faciliter notamment l'acheminement des concentrés de lithium vers la Tanzanie. Le reportage est de Paul Munanga.
Le projet comprend notamment des opérations de dragage, la construction d'un quai, d'entrepôts, des bâtiments administratifs ainsi que d'infrastructures logistiques destinées à renforcer les capacités de transport des minerais et à dynamiser les échanges commerciaux dans la région. Ces infrastructures sont réalisées dans le cadre d'un partenariat public-privé conclu entre l'État congolais et un consortium composé de Jintai Mining Pte Limited et de Tembo Majengo Company SARL. Sa mise en œuvre est assurée par la société Golden Lake Logistics SARL. La réalisation de ces projets s'inscrit dans la volonté du gouvernement de développer les infrastructures de transport considérées comme un levier essentiel pour le désenclavement des provinces, le renforcement de la compétitivité économique et l'amélioration de la connectivité à travers les pays. Au cours de sa visite, le vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a parcouru les différentes composantes du projet et constaté l'évolution satisfaisante des travaux. Il a encouragé les responsables du chantier à poursuivre leurs efforts afin de garantir le respect du calendrier d'exécution prévu. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola, les mesures de prévention sont renforcées aux principaux points de passage entre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur plusieurs axes routiers, les anciens postes de contrôle et de péage ont été transformés en points de surveillance sanitaire avec des dispositifs de lavage de mains, des prises de température et des contrôles de voyageurs. Certaines installations permettent également d'identifier et d'orienter les cas suspects vers des structures spécialisées. Objectif, limiter les risques de propagation de l'épidémie entre les deux provinces. Les détails avec Marc Marofimbo.
Sur l'axe Bunia-Beni, long d'environ 205 km et très fréquenté par les véhicules et les motos, les autorités sanitaires ont renforcé les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Au poste de Mavivi, principal point de contrôle pour les voyageurs en provenance de Beni, des équipes composées d'agents de santé appuyées par la police nationale congolaise et les FARDC veillent à l'application stricte des mesures barrières. Sur les restes du parcours vers Bunia, des équipes de surveillance sanitaire sont également déployées à Komanda, Irumu, Marabu et Chai. Dans ces localités, les voyageurs sont soumis aux mêmes procédures. Lavage de mains, prise de température et contrôle systématique dans le cadre de la riposte contre Ebola. Si ces mesures sont globalement bien accueillies par les usagers, certains voyageurs estiment toutefois que la couverture reste incomplète. Ils regrettent l'absence de dispositifs de prévention dans plusieurs localités où les passagers effectuent régulièrement des arrêts, notamment à Loya, Mambelenga et Ndimo. Contactés à ces sujets, des sources au sein de l'équipe de riposte indiquent que des partenaires humanitaires travaillent à l'extension progressive des dispositifs de lavage de mains et des contrôles sanitaires vers d'autres points jugés stratégiques sur l'axe Beni-Bunia. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Enfin, 6 décès ont été enregistrés à moins d'une semaine au cachot de Boko dans le territoire de Banzangungu au Congo central. Les causes exactes de ces décès ne sont pas encore connues, mais les sources médicales soupçonnent une éventuelle épidémie de choléra. Cette série de morts inquiète la population et soulève de nombreuses questions sur les conditions de détention dans cette structure carcérale. Les notables du secteur de Boko appellent les autorités provinciales et nationales à intervenir rapidement afin d'éviter de nouveaux drames. Des détails avec Élise Kavira.
Le cachot de Boko dispose de 3 cellules d'environ 5 mètres carrés chacune, conçues pour accueillir près de 70 personnes. Aujourd'hui, elles abritent environ 134 détenus, soit presque le double de leur capacité normale. Les notables de Boko dénoncent cette surpopulation carcérale qui expose les détenus à des conditions de vie jugées inhumaines et favorise la propagation des maladies. Victor Nzuzimbembe, membre de la société civile.
Quelle surpopulation ! Et après, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de toilettes.
Alerté par les décès enregistrés dans ce cachot, le médecin chef de la zone de santé de Boko Kivulu a dépêché sur place un médecin afin d'évaluer la situation sanitaire et d'identifier les causes de ces morts. Le docteur Mbombolo Kangi Obéi fait le point.
Nous sommes arrivés quelques minutes après la dernière personne qui était décédée. Nous avons vu l'aspect du sel. Nous avons plus suspecté le cas de choléra. Tous les prisonniers ont bénéficié d'une chimio-prophylaxie à la doxycycline. Nous avons déjà aménagé un local qui va nous servir de centre de traitement de ces différents cas.
Selon le docteur Mbombo Lokangi, des échantillons ont été prélevés et envoyés à l'Institut national des recherches biomédicales pour analyse. Les autorités locales ont entrepris des mesures de désengorgement du cachot afin de réduire la promiscuité. Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Centrafrique, Bangui est sous le choc après un grave accident de la circulation survenu vendredi soir à Bimbo, au sud-ouest de la capitale. Un camion citerne s'est renversé sous la rue des Sœurs, faisant au moins 20 morts et plusieurs dizaines de blessés selon un bilan provisoire. D'après les premières informations, le drame serait lié à une défaillance technique du système d'air du camion. Le véhicule aurait alors perdu le contrôle avant de se renverser, fauchant plusieurs personnes et sèmant la panique dans le quartier.
L'invité.
L'invité de ce journal est le maire de la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Dominique Nkodiambete évoque la question de la problématique des constructions anarchiques sur les routes en pleine réhabilitation. Une situation qui entraîne aujourd'hui des expropriations et des démolitions pour permettre la poursuite de ces chantiers d'intérêt public. Dominique Nkodiambete s'entretient avec Élise Kavira. Bonne écoute.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame.
Depuis quelques jours, plusieurs voix s'élèvent dans la ville. D'un côté, il y a la population qui se réjouit de voir le lancement des travaux de réhabilitation de plusieurs routes. Mais d'un autre côté, de nombreuses familles s'inquiètent à l'idée de perdre leur maison dans le cadre de ces travaux. Que se passe-t-il exactement, monsieur le maire?
C'est vrai, quand les gens ont construit sur la route, c'est déjà un problème. Il ne faut jamais occuper la route. Là, on a tracé que c'est une route. Il ne faut jamais construire, mais les Congolais ont tendance, lorsqu'ils construisent, même quand on voit que c'est la route, mais on cherche à voler quelques centimètres, même si la route n'est pas encore macadamisée, il ne faut jamais aller au-delà de la route quand on construit.
Dans ce cas précis, puisque je suis allé vers Ndemba pour échanger avec quelques familles concernées, et j'ai vu que les maisons ciblées sont déjà marquées à la peinture rouge. Quelles dispositions ont été prises, en tout cas jusque-là, en faveur de toutes ces familles?
Dans cette affaire, les cadastres vont voir, l'urbanisme va voir si une parcelle est sur la route et que nous devons tracer. Nous traçons à ce moment-là, c'est votre faute, comment vous avez construit sur la route? À ce moment-là, on ne va pas vous indemniser. Mais pour cela, que les plans cadastrales indiquent que c'est votre parcelle, mais c'est nous, l'État, qui voulons passer par votre maison. À ce moment-là, on fait des expropriations. On vous indemnise, on vous paye votre argent équivalent au prix de la maison. Et on va procéder de cette manière-là. Il y a toute une commission qui travaille au niveau de la mairie, ensemble avec l'urbanisme et les cadastres, pour voir qui est en ordre ou qui n'est pas en ordre. Pour ceux qui sont en ordre et que c'est l'État qui doit les indemniser, on finira par les indemniser.
Il est vrai que la ville de Matadi a sérieusement besoin des routes. Mais au regard de l'ampleur des travaux annoncés, plusieurs familles vont se retrouver sans abri finalement. Comment votre administration pense concilier les impératifs du développement urbain et la protection des citoyens touchés par ce projet?
Ça sera un peu compliqué, mais on y travaille. C'est pourquoi vous voyez, il n'y a pas beaucoup de routes. Cette route-là, c'est le financement des Foner. Les Foner vous donnent l'argent pour la construction de la route. Les expropriations, ce n'est pas son affaire. C'est ce qui retarde beaucoup les travaux de bétonnage. Quand les investisseurs viennent, quand les bailleurs de fonds viennent, déjà quand on calcule les coûts de la route, si vous ajoutez les expropriations qui souvent coûtent plus cher que les coûts même de la route, on abandonne. Donc c'est un problème sérieux que nous rencontrons dans la construction des routes. Souvent quand on vient, on dit comme la route va coûter combien? 1 million. Et les expropriations? 3 millions. À ce moment-là, qui va accepter de venir donner d'abord 4 millions pour exproprier et 1 million pour les... C'est compliqué. Donc dans vos interventions, dans la campagne que nous devons tous mener, c'est de faire comprendre à la population qu'on ne construit pas, même si on va construire après 30 ans. Quand on vous dit qu'à cet endroit, ça sera la route, il faut laisser ça comme ça.
Vous savez, monsieur le maire, avec la croissance démographique, des nouvelles maisons apparaissent tous les jours dans la ville. Quelles mesures envisagez-vous pour mettre fin à ce phénomène des constructions anarchiques?
dans la campagne que nous devons tous mener dans vos interventions, c'est de faire comprendre à la population qu'on ne construit pas, même si on va construire après 30 ans. Quand on vous dit qu'à cet endroit, ça sera la route, il faut laisser ça comme ça.
La population matadienne a longtemps demandé à avoir des routes de contournement pour réduire tant soit peu les embouteillages dans la ville. Mais avec toutes les contraintes que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y a d'autres projets de ce genre au programme?
Voilà la route de Wassikongo là qui va aller jusqu'à les copains. On pouvait bien l'amener jusqu'au niveau de Mpozo vers la sortie Afritrans. Il y a un grand entrepôt d'Afritrans vers Mpozo là-bas. Normalement, la route devait aller sortir de ce côté-là. Mais si vous entrez par Afritrans Mpozo pour arriver jusqu'au niveau de les copains, les gens ont construit un désordre. La route n'existe presque plus. Alors qu'il y avait une route, une tracée. Et quand on va tracer la route, les gens viendront encore se plaindre pour dire que non, on a cassé leur maison, on a démoli leur maison. C'est compliqué, madame.
Monsieur le maire Dominique Nkodiambété, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Et Dominique Nkodiambété, maire de la ville portuaire de Matadi, au Congo central, était notre invité. Il s'entretenait avec Élise Kavira. Fin de ce journal, mis en onde par Jean-Claude Siala et préparé par Richard Junior Kamunga. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.